Chers amis, nous continuons donc notre parcours de carême sur la prière. Donc nous avons commencé ce parcours il y a 15 jours avec le Père Thomas, des premiers fondamentaux sur la prière, où il nous a notamment rappelé que l'enjeu de la prière, c'est la relation. La prière, c'est le lieu de la relation avec notre Seigneur, qui nous attend, qui nous précède, qui est déjà là, qui nous appelle, qui nous désire et qui nous attire à lui. La prière comme relation avec notre Seigneur. La deuxième conférence portait sur l'oraison et la lectio divina. Enfin, en même temps, je vous demande, parce que comme je n'y étais pas, vous allez me confirmer si c'est bien ça, c'est la lectio divina. Ça, c'est bien ça, la méditation de la parole de Dieu. Confirmé, Agnès ? Ouf. Et bien, dans cette troisième conférence, nous allons regarder une prière que vous connaissez bien, qui est l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique. Voilà. Là, vous connaissez bien parce que, par la chance, sur nos paroisses depuis, je ne sais même plus quand ça a été lancé, il y a 10 ans, 15 ans, l'adoration continue. 2010. Voilà, on a la chance d'avoir. Il y avait d'ailleurs mercredi soir une soirée des adorateurs. C'est très beau de pouvoir se rencontrer et de. Voilà, de. Toutes ces. Et puis au-delà des frères et sœurs qui sont inscrits, c'est toute une paroisse quand même qui vit de la grâce de l'adoration eucharistique. Alors on en entend souvent parler parce qu'en début de chaque année, nous avons des homélies sur le thème de l'adoration, mais il est bon d'approfondir cette grâce, et j'espère ce soir vous donner envie de poursuivre ou bien de plonger encore plus dans ce beau cadeau de l'adoration eucharistique. Alors d'abord, pour vous réveiller, pour vous exhorter, quelques citations de pape qui nous encouragent à vivre l'adoration. Ce n'est pas simplement une lubie de la paroisse de Bon Secours et de Saint-Marc, mais ce sont les papes, différents papes, qui notamment au XXe siècle, où il y a eu tout un renouveau de l'adoration eucharistique, nous y encouragent. Je cite Benoît XVI, en 2010, justement, année du lancement de l'adoration sur nos paroisses. « Je voudrais affirmer avec joie qu'il y a aujourd'hui dans l'Église un printemps eucharistique. » Combien de personnes demeurent en silence devant le tabernacle pour s'entretenir en une conversation d'amour avec Jésus. Je prie afin que ce printemps eucharistique se répande toujours davantage dans toutes les paroisses. C'est le 17 novembre 2010. Voilà. Et de fait, c'est ce que nous constatons de plus en plus de paroisses qui redécouvrent l'adoration eucharistique. Jean-Paul II dit que le christianisme doit justement se distinguer par l'art de la prière. Je le cite, « Il est bon de s'entretenir avec le Seigneur et pencher sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. De nombreux saints nous ont donné l'expérience de cette pratique, maintes fois louée et recommandée par le magistère. Le christianisme doit se distinguer par l'art de la prière. Quand on voit aujourd'hui tout le renouveau spirituel, la quête spirituelle de nos contemporains qui se tournent vers le bouddhisme, vers le yoga, vers le chamanisme, vers les énergies, vers toute, beaucoup de spiritualité orientale, eh bien, je pense que pour beaucoup, ils ne perçoivent pas que le christianisme est d'abord un art de la prière. Que le christianisme, finalement, est une relation au Christ. et que ce qui fait l'essentiel de notre foi, c'est notre vie spirituelle, c'est notre vie de prière, qui est au cœur de notre vie. Et ça, ça ne transparaît pas toujours. Il y a un challenge pour nous, c'est pas évident, mais un challenge pour nous d'arriver à témoigner dans le milieu professionnel de la grâce que nous puisons dans la prière. Parce qu'en fait, l'homme contemporain est assoiffé de trouver des lieux de méditation, de ressourcement, de repos, de relecture, de méditation. Claire, est-ce que vous savez combien de fois a été téléchargée l'application Petit Bambou? Moi non plus. Mais je crois que dans le métro, vous avez vu, il y a plus de 2 millions de téléchargements. Donc vous dites pourquoi l'application Petit Bambou explose et l'application Adoration du Saint-Sacrement à l'entrée de Bon Secours n'explose pas encore. Et donc, parce qu'elle n'existe pas, il y a des vocations qui se lancent. Donc, mais parce que je pense, peut-être nous chrétiens, on n'est pas toujours ça en premier. Vous voyez, quand on témoigne de notre foi, peut-être qu'on ne met pas assez ça en avant, alors que c'est un trésor qu'il nous faut partager. Je cite encore Jean-Paul II. L'Église et le monde ont grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes et les grands délits du monde. Que notre adoration ne cesse jamais. Voilà, il y a un besoin urgent d'adorer pour confier ce monde. Pour évangéliser, dit toujours Jean-Paul II, il faut des apôtres experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Tel est notre désir, devenir des apôtres. Qu'est-ce que c'est un apôtre ? C'est un envoyé. C'est un envoyé qui est envoyé pour évangéliser, pour annoncer, témoigner de la bonne nouvelle. Et pour cela, nous avons besoin, eh bien, d'abord de contempler celui que nous annonçons. Il nous faut être des adorateurs au cœur du monde si nous voulons être envoyés au cœur du monde. Voilà. Quelques citations des papes pour nous encourager à cette belle prière de l'adoration eucharistique. Maintenant, quelques éléments pour nourrir un peu votre réflexion, votre méditation sur l'adoration. D'abord, toujours important de faire le lien évidemment entre la célébration eucharistique et l'adoration eucharistique, comme le disait à l'instant le pape Jean-Paul II. L'adoration eucharistique est un prolongement de la messe. Je cite Benoît XVI. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique. L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. En fait, dit Benoît XVI, ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai de l'Eucharistie reçue. Vous voyez, quand je reçois l'Eucharistie à la messe, eh bien, en fait, j'ai qu'un désir qui m'habite, j'ai un grand désir qui m'habite, c'est de prolonger. Et on aimerait que la messe se prolonge, c'est vrai, on a envie de partir, mais là, c'est tellement extraordinaire ce qu'on a vécu. On a été unis par le Christ, on a communié à son corps, et on n'a qu'une envie, c'est de rester en adoration. Et puis là, le prêtre dit non, allez dans la paix du Christ, ne gardez pas ce trésor pour vous, allez le partager. Je dis, attends, on devrait quand même en profiter un petit peu. Et puis oui, il faut en profiter, il faut revenir à l'adoration pour prolonger la grâce de la messe. Et ce lien entre l'adoration et la messe nous rappelle que l'adoration n'est jamais seulement une dévotion privée. C'est jamais seulement mon petit Jésus que je viens rencontrer dans l'adoration eucharistique. Parce que si je comprends que c'est un prolongement de la messe, messe, que la messe est par essence la célébration communautaire, la prière de l'Église, eh bien l'adoration eucharistique, c'est la prolongation aussi de la prière de l'Église. Donc, quand je suis, même si je suis seul dans l'adoration, je suis uni à toute l'Église. Alors, c'est vrai qu'on a la chance à la paroisse d'avoir de longues heures d'adoration continue. Donc pour nous, ça manifeste bien ce lien ecclésial. Peut-être que ce n'est pas moi qui suis tout seul, mais je m'inscris dans une chaîne de prière et voilà, qui me rappelle que l'adoration n'est pas simplement ma relation personnelle avec Jésus, mais c'est une prière qui me relie à tout le corps du Christ, à tous mes frères et sœurs. Adorer le Saint-Sacrement, c'est aussi une façon pour nous, eh bien, encore une fois, de confesser notre foi dans l'Eucharistie, de confesser notre foi dans la présence réelle et sacramentelle du Christ mort et ressuscité dans le Saint-Sacrement. Je cite Saint Jean Chrysostome, « Combien disent « Je voudrais voir la figure du Christ, je voudrais voir ses traits, sa beauté, moins que ses vêtements. » Mais dans l'Eucharistie, dit Saint Jean Chrysostome, c'est lui-même que vous voyez, c'est lui-même que vous touchez, lui-même que vous mangez. Pensez-y et adorez, car c'est le même qui est aux cieux et que les anges adorent. Il y a la phrase de Saint Paul qui dit que dans le Christ est présent toute l'âme. Toute la substance de la divinité, quelque chose comme ça. Dans le Christ, il y a toute la divinité. Dans l'Eucharistie, il y a tout le Christ. S'il y a tout le Christ, il y a le Christ éternel. Donc, Jésus n'est pas moins présent qu'il y a 2000 ans auprès de ses apôtres. Quand je le vois et je le regarde, quand j'accueille son regard sur moi, eh bien, c'est le même regard que posait Jésus sur Pierre. Voilà, c'est la grâce que nous avons dans l'Eucharistie, de pouvoir rencontrer le Christ réellement. Donc, on voit le lien entre l'adoration eucharistique et la célébration eucharistique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que au moment de la scène, le soir, la veille de la Passion, Jésus institue justement le sacrement de l'Eucharistie. Il est là au milieu de ses apôtres, il prend du pain et puis il va consacrer ce pain en disant « Ceci est mon corps ». Donc à ce moment-là, il y a deux Jésus. Il y a le Jésus présent physiquement au milieu de ses apôtres et puis il y a le Jésus présent réellement dans le pain consacré. Il ne dit pas « Ceci sera mon corps » et « Ceci est mon corps ». Donc c'est déjà Jésus présent dans ce pain que l'Écriture crée. Nous, ça ne nous choque pas parce qu'on sait que Jésus est complètement présent. Vous voyez, on se dit pas « Oh là là, il se dédouble, comment il fait ?» Non seulement il se dédouble, mais il se multiplie. Enfin, Jésus, il est dans ce tabernacle, il est aussi dans le tabernacle de Bon Secours. Ce n'est pas le Père Geoffroy qui a fait un aller-retour pour ramener Jésus, pour qu'il ait la petite lumière. Il est dans tous les tabernacles. Donc nous, on n'est pas tellement surpris que Jésus ait cette capacité-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que enfin, voilà, Jésus est le seul qui arrive pour donner quelque chose de lui-même à ses apôtres, et il arrive à se donner lui-même. Je ne sais pas, si Agnès m'offre un morceau de pain, je vais recevoir un morceau de pain, je vais voir beaucoup d'amour à Agnès. Oh là là, elle a fait beaucoup d'amour, elle a fait cuire, elle a préparé la pâte. Je vais voir tout l'amour d'une sœur dans le pain qu'elle m'a donné. Mais Jésus, c'est plus que ça. Jésus, c'est non seulement il met tout son amour, mais il y met lui-même complètement. Et ça, c'est l'objet. Ça, c'est l'amour parfait. Ça, c'est l'amour parfait. C'est ça qu'on veut vivre aussi. C'est ça qu'on veut les époux. Nicolas, Patricia, c'est ça qu'on veut vivre. Vous voulez vivre cet amour parfait. En couple, on veut se donner à l'autre, mais complètement. Mais nous, on n'y arrive jamais complètement. Mais Jésus, lui, il y arrive complètement. Quand il se donne, quand il donne ce pain à son Église, il se donne lui-même dans ce pain. Ce pain qui devient son propre corps, sa propre vie. Voilà, donc c'est. Donc ça nous aide aussi à comprendre l'adoration eucharistique. Jésus qui sort de lui-même pour se rendre présent. C'est la puissance de l'amour de Dieu. L'adoration, donc toujours dans ce lien avec la messe, eh bien, peut réveiller notre amour de l'Eucharistie. Vous connaissez probablement le message de Marie Moniale et les apparitions que Marguerite Marie va recevoir pendant l'adoration. Voilà comment elle raconte les choses dans sa grande apparition. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, je me sentis touché du désir de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, tu peux m'en rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois. Non, tu ne peux m'en rendre un plus grand acte d'amour qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. Alors, me découvrant son divin cœur, il dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Vous voyez, Jésus se présente à Marguerite Marie pendant l'adoration eucharistique. Et elle a ce désir de rendre amour pour amour. Vous voyez, c'est comme ça, quand vous êtes aimé, il y a un moment, ça déborde, vous voulez redonner, vous voulez rendre. Et c'est ça qui habite le cœur de Marguerite Marie. Et Jésus lui dit, mais justement, c'est dans l'eucharistie que je veux être aimé. Et notamment, je veux que tu puisses par ton amour réparer, vous avez entendu, les ingratitudes, les irrévérences, les froideurs, les mépris, les sacrilèges. Alors les sacrilèges, ça fait référence notamment au XVIIe siècle, aux messes noires qui pouvaient être célébrées, aux profanations des espèces eucharistiques. Mais sans même aller jusqu'au sacrilège, on est parfois nous-mêmes un peu froid et un peu ingrat devant le trésor de la messe. On peut être tellement habitué à ce geste si humble du Christ qui se donne qu'on peut à un moment donné tomber dans la routine, même pour un prêtre. Il célèbre tous les jours la messe pour des fidèles qui ont reçu la messe le dimanche depuis des années. Voyez, on a besoin de renouveler notre ardeur, notre amour, notre foi dans le Saint-Sacrement. Et Jésus donne à Marguerite Marie l'adoration eucharistique comme un cadeau pour nourrir notre amour de la messe. Il est déjà 21h18, ça passe à toute vitesse. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça passe à toute vitesse. Donc là, il faut vraiment que je réfléchisse. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 23h15. C'est pas ça? 22h15, ça suffit. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Même au-delà de la simple adoration eucharistique, qu'est-ce que c'est l'adoration? Benoît XVI rappelle deux étymologies. L'étymologie grecque, la proskynesis, donc qui est un terme technique dans l'Ancien Testament. On tombe face contre terre, voilà, on se prosterne, tels des rois mages qui se prosternent en adoration devant Jésus, tels Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration qui se prosternent, ou tels les disciples au moment de l'ascension, quand le Christ célèbre Dieu. Et puis en latin, ad oratio, dit Benoît XVI, ça évoque le baiser. baiser, l'accolade, adoration, le baiser, l'accolade, et donc en définitive l'amour. Voilà, donc on a déjà, avec l'étymologie, deux sens. Le sens latin qui traite plus l'affection, le baiser, l'adoration amoureuse, on pourrait dire, et se prosterner, reconnaître la divinité et se reconnaître comme créature. Alors, pour comprendre l'acte d'adoration, j'ai pensé aussi à ce que dit saint Ignace au début des exercices spirituels. Il dit « L'homme est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur. » Il commence comme ça. Les exercices spirituels. Et après, il dira « Une fois qu'on a compris ça, il suffit de tout mettre en œuvre pour agir conformément à la fin, à la finalité de notre vocation. L'homme, dit saint Ignace, est créé pour louer, vénérer et servir Dieu notre Seigneur. » Qu'est-ce que c'est l'adoration ? C'est justement louer, vénérer, servir. C'est, je trouve que ça exprime bien les trois dimensions de l'adoration. Je cite le catéchisme. L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. D'accord ? Ça, c'est la dimension vénérée. La créature qui vénère, qui se reconnaît devant son Créateur. L'adoration exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le Roi de gloire et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand. Voilà toutes les différentes dimensions de l'adoration. Adorer, c'est reconnaître Dieu comme Dieu, et moi comme sa créature. Il est mon créateur, il est mon sauveur, il est le Seigneur, il est le Maître. Et moi je suis sa créature. Il est le Maître, il est non seulement le Maître, mais il est le seul Maître. Hein, comme dit le Deutéronome, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Adorer Dieu, c'est aussi louer, donc comme dit saint Ignace, comme la Vierge Marie, comme les anges. Qu'est-ce que font les anges en adoration devant le Seigneur, nous dit le livre de l'Apocalypse. Ils chantent les merveilles du Seigneur. Adorer, c'est louer, c'est une des dimensions de l'adoration que nous devons à notre Seigneur. Et puis adorer Dieu, c'est une confession amoureuse, comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne sais pas s'il se prosterne à ce moment-là, il faudrait vérifier dans l'Évangile. Mais en tout cas, voilà, cette profession de foi, c'est un acte d'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu, je me reconnais, moi créature devant mon Seigneur, mon Sauveur. Qu'est-ce que fait Jésus au début du Notre Père, si ce n'est d'adorer Dieu? Et comment adore-t-il son Père? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est un acte d'adoration. Et dans la messe, nous reprenons cet acte d'adoration au moment de la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Voilà, c'est une forme de louange qui exprime notre adoration. Alors, il y a aussi dans la rencontre du Christ avec la Samaritaine, le thème de l'adoration en esprit et en vérité. L'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On l'a eu il n'y a pas longtemps à la messe. L'Esprit Saint qui intercède pour nous, comme dit saint Paul, qui vient à notre secours, car nous ne savons pas prier comme il faut, nous ne savons pas adorer comme il faut. Voilà. Mais déjà dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est à l'œuvre pour conduire l'adoration de son peuple. Et notamment, ce qui va être une étape importante dans la foi du peuple hébreu, qui d'abord va construire le sanctuaire pour adorer le Seigneur. Et puis, il va y avoir l'épreuve de l'exil. Et là, le sanctuaire est détruit. Comment faire pour adorer notre Seigneur si le sanctuaire est détruit? Comment faire? Eh bien, le peuple hébreu va se rappeler que, quand il est en exil, il n'est plus à Jérusalem, il va se rappeler que il n'y a pas simplement un lieu qui a été donné au peuple pour adorer, il y a aussi un jour, le sabbat. Le sabbat est le jour que Dieu a donné pour que le peuple puisse adorer son Dieu. Voilà. Donc, même si je suis privé d'un espace pour adorer, il y a toujours le temps qui m'est donné comme un cadeau pour adorer Dieu. Et ce qui est aussi important dans la réflexion d'Israël, c'est que la tentation du sanctuaire, du lieu, comme du culte, c'est que même si j'obéis à Dieu, mais c'est que c'est moi qui le fais avec mes mains. Voyez. C'est moi qui façonne, c'est moi qui construis. Les travaux de Saint-Marc, oui, Dieu nous l'a demandé. Amen. Sinon, on ne le fait pas. Dieu nous le demande, mais c'est quand même nous qui le faisons. Donc, il y a toujours un risque quand l'homme met sa patte. Voyez. Alors que l'avantage du sabbat, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose pour le... Vous voyez, c'est pas nous qui avons... c'est Dieu qui a créé le temps et qui nous dit ce jour-là, je vous donne comme un cadeau pour m'adorer. Et là, au moins, on est sûr que... Voilà, dans le sabbat, l'homme s'arrête et contemple, non pas ce que lui a fait, mais il contemple celui par qui tout a été fait. Alors, quels sont les fruits de l'adoration sur nous? Ils sont nombreux, les fruits d'adoration. Si on faisait un micro-trottoir ou un micro-Saint-Marc, on aurait plein de beaux fruits. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le partage, vous pourrez partager sur les fruits que vous avez pu goûter dans l'adoration. Mais d'abord, je cite le catéchisme. Non, mais c'est terrible, il est déjà 21h27. C'est fou, hein? Et c'est un don de Dieu, le temps est un don de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'on ne va pas se coucher trop tard. Alors, le catéchisme dit que l'adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable confond d'humilité. Une des grâces de l'adoration, c'est l'humilité. Parce que l'adoration, en fait, comme toute prière, révèle notre pauvreté. Dans la prière, on est tous pauvres. Et moi, je pensais que passé 30 ans, j'aurais un master en prière. En fait, c'est un challenge tous les jours. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'il y avait une validation d'acquis. À un moment donné, alors c'est vrai que tu as un habitus. À un moment donné, quand tu structures tes journées, tes semaines, tes temps de prière. Mais en fait, on pourrait demander aux adorateurs qui se sont inscrits en 2010, lever la main. Il y en a plein peut-être, mais il y en a qui adorent depuis des années. C'est même un challenge à chaque fois de se remettre devant le Seigneur, de quitter ses soucis, ses angoisses, ses problèmes, son mari. Non, je rigole. Il faut se remettre dans la prière, il faut rentrer. Et puis après, vous êtes rentré et tac, c'est fini quoi. Et bien, ça valait beaucoup. Vous voyez, bon, Pierre Boursin, le fondateur de l'Emmanuel, disait si on adore vraiment, on se sent vraiment de plus en plus pauvre. En fait, c'est une bonne nouvelle. Plus on adore, plus on se sent pauvre. Au début, on fait quelques progrès, on se dit, et puis, plus on adore, plus on se sent pauvre. Plus on se sent pauvre aussi parce qu'on est devant l'amour infini, l'amour parfait. Puis nous, on est là, et puis on dit, Seigneur, ça fait 35 ans que je vais à la messe tous les dimanches, et j'arrive toujours pas à dire bonjour à mon boulanger, j'arrive toujours pas à annoncer l'évangile à mon boucher, j'arrive toujours pas à témoigner à ce collègue-là, j'arrive toujours pas à supporter ma secrétaire, j'arrive toujours pas à... Oh, on fait l'expérience d'un pauvre temps, on dit Seigneur, mais comment ça se fait quoi? Comment ça se fait que mon cœur soit si dur alors que j'ai devant moi le cœur 12 et 1 par excellence? Et Seigneur, je fais l'expérience d'un pauvre temps, de mon impuissance. Et en fait, cette pauvreté, cette impuissance ouvre en moi cette brèche par laquelle le Seigneur peut, dans l'adoration, faire couler son Esprit Saint, son eau vive, Voilà, si, c'est sûr que si j'arrive à l'adoration et que j'ai besoin de rien, le Seigneur ne va pas pouvoir donner autant. Alors que si j'arrive comme un pauvre, prêt à tout recevoir, en me confondant d'humilité, comme dit le catéchisme, ben le Seigneur, là, il ne peut que se répandre en nous. Voilà, l'adoration du Dieu unique, elle nous libère des idoles, bien sûr. Et puis, adorer le Saint-Sacrement nous aide à faire la volonté du Seigneur. Ça, c'est Agnès de la Marzelle qui disait ça, sœur de l'Emmanuel aussi. Elle disait, je ne vais pas simplement adorer Jésus pour lui dire « je t'aime », mais je vais adorer Jésus pour dire « Jésus, je veux te suivre ». En fait, Jésus, je veux te suivre. Et je veux faire ta volonté. Je veux que l'union du cœur devienne une union de volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux te faire aimer, je veux te servir. Et je vois que je n'y arrive pas. Et donc je viens à toi, Seigneur, pour que tu brûles mon cœur, que tu embrasses mon cœur, que je puisse faire ta volonté, que je puisse répondre à ton appel. Voilà, c'est le lien vraiment entre l'adoration et la mission. Le catéchisme dit que les laïcs, par toutes leurs activités, sont appelés à rendre à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Un culte d'adoration. Donc, quand tu travailles sur ton tableau Excel, tu peux rendre un culte d'adoration. Quand tu prends soin de ton enfant malade qui reste à la maison, tu peux rendre un culte d'adoration. C'est vraiment cette union, cette unité qu'il y a entre la prière et la mission, le cœur à cœur avec Jésus et la consécration du monde au Seigneur par l'offrande de mes activités, de mon travail et de mes services. Quels sont les fruits de l'adoration ? Quels sont les fruits de l'adoration ? On est toujours en train de creuser dans cette question. C'est aussi de m'ouvrir justement à l'immensité du corps du Christ. Parce que si je ne fais que adorer Jésus présent en moi, je pourrais risquer d'oublier la transcendance de Dieu. Il est tellement en moi, il est tellement immanent, il vit tellement en moi, comme dit saint Paul, que je pourrais en oublier sa transcendance. Il n'est pas qu'en moi, il est aussi à l'extérieur de moi. Et l'adoration eucharistique me le rappelle. J'ai reçu Jésus à la messe. Je l'adore présent en moi-même et en même temps, mais quand je vais l'adorer, quand il est devant moi, il n'est plus seulement en moi, il est aussi à l'extérieur de moi. Et donc, ça m'ouvre à la transcendance, au mystère de ce Dieu qui habite en moi, qui me dépasse toujours. Et ça m'ouvre aussi aux frères, parce que dans le corps du Christ que j'adore, eh bien, je vois aussi tous les frères et sœurs, toutes les multitudes, toutes les foules pour qui le Christ a donné sa vie. Voilà. Si l'Eucharistie, c'est ce lieu qui appelle tous les hommes à ne faire qu'un seul corps, alors quand j'adore Jésus dans le Saint-Sacrement, je vois toute la communauté de Saint-Marc, le Bon Secours, et je vois toutes les multitudes, toutes ces foules pour qui le Christ a donné sa vie et qui ne le savent même pas. Donc l'adoration eucharistique est profondément missionnaire et m'ouvre au cœur de Jésus qui brûle, qui brûle pour le monde entier. Alors, il va falloir qu'on saute 3 ou 4 parties, je pense. Donc, peut-être pour terminer, je ne sais pas. Alors peut-être pour répondre, parce que parfois ça m'en suffit. Moi, je suis plus oraison, moi je suis plus adoration. Donc l'oraison, c'est prier chez soi, ou prier. Bref, des prières silencieuses, d'union à Jésus, mais pas forcément devant l'adoration. Bon, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Saint Thérèse d'Avila dit que l'oraison, c'est un commerce d'amitié avec un Dieu dont on se sait aimer et que l'on veut aimer en retour. En fait, l'adoration, c'est la même chose. C'est aussi un dialogue d'amour. Mais voilà, dans l'adoration, j'ai vraiment ce face-à-face, j'ai vraiment Jésus devant moi. Ça, c'est Nicolas Butet qui dit ça, le père Nicolas Butet, il dit « L'oraison comme l'adoration, le but, c'est de vivre à cœur, mais l'adoration, ça peut m'aider parce que je vais vivre aussi un face-à-face. Et le face-à-face va m'aider à vivre à cœur. » Et c'est vrai que parfois, quand on vit à cœur, le risque, sinon, dans la prière, c'est de se rencontrer soi-même. On prie, et puis en fait, on pense à soi, on fait une relecture de sa vie. C'est bien, mais à un moment donné, on est là pour rencontrer Jésus. On est là pour dire qu'on l'aime, on est là pour dire qu'on veut être en sa présence, qu'on veut passer du temps avec lui, qu'on veut accueillir sa parole. Voilà, et l'adoration m'aide à garder cette altérité, ce face-à-face. Voilà, c'est un soutien, disons. Ça soutient mon cœur à cœur par le face-à-face. Ce qui aide aussi beaucoup pour l'adoration, c'est aussi un petit conseil pratique, c'est de garder tout ce que vous avez entendu dans les topos précédents, qui sont valables, que vous pouvez tout à fait appliquer pour l'adoration. Vous voyez, faut pas trop dissocier. Ça n'a rien à voir. La lection divina, ça n'a rien à voir avec l'adoration. L'oraison, ça n'a rien à voir. La lection, bien sûr qu'il faut, adorer la parole de Dieu. Il y a un aller-retour. Vous voyez, il y a le cœur, il y a la parole de Dieu, il y a l'Eucharistie. Le cœur, la parole de Dieu, l'Eucharistie. Et l'un soutient l'autre. Quand on voit Luc 24, les disciples d'Emmaüs, vous voyez, on voit très bien le lien entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. Ils marchent avec Jésus les enseigne, leur cœur brûle. Et à la fraction du pain, ils reconnaissent Jésus. Donc il y a vraiment une profonde unité qu'on retrouve à la messe. À la messe, c'est pas juste qu'on adore le Saint-Sacrement, mais on écoute la parole, et la parole prépare notre cœur, brûle notre cœur, pour nous permettre d'accueillir Jésus dans son corps. Voilà, prions avec la parole de Dieu. Bon, c'est bien, hein? Juste Saint-Jean-Marie Vianney, on va terminer avec le curé d'Ars, pour rassurer tout le monde, parce qu'il n'y a pas de recette, on prie que la parole de Dieu, on conseille. Saint-Jean-Marie Vianney, on n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le Saint Tabernacle, dans l'Eucharistie. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. C'est la meilleure prière que celle-là. Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le bon Dieu ouvrira le sien. Nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander et l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Voilà, nous sommes là pour être avec Jésus, pour passer du temps avec lui, gratuitement. C'est pas grave si ça ne se passe pas grand-chose, c'est pas grave si on sent rien, c'est pas grave si on est fatigué. On a pris du temps pour notre Seigneur et c'est notre acte d'adoration, c'est notre amour qui se manifeste. Jésus à Saint-Angèle, occupe-toi de mes intérêts, je m'occuperai des tiens. Je suis là pour m'occuper de Jésus. C'est dur, hein, mais moi le premier dans l'adoration, moi, je travaille beaucoup avec Jésus dans l'adoration. On travaille beaucoup ensemble. Et puis parfois, je me dis, mais est-ce que tu t'occupes de tout ton travail ou est-ce que tu t'occupes de Jésus vraiment, d'être là juste pour lui, quoi. Enfin, voilà. Nous occuper du Seigneur. Voilà notre grand désir quand nous rencontrons le Seigneur cœur à cœur dans l'adoration. Alors, pour le partage, je vous propose de vous mettre par groupe de 5 ou 6 pour ne pas être trop nombreux. Je vous propose de partager, donc ça peut être sur un point, une parole d'un saint, d'un pape qui vous a touché dans cet enseignement, qui vous nourrit, qui nourrit votre réflexion, votre méditation. D'accord ? Et puis ça peut être aussi sur partager sur une grâce déjà reçue à l'adoration. Voilà. Est-ce que vous avez déjà votre rapport à l'adoration, et est-ce que vous avez déjà reçu des grâces dans cette prière ? Je rappelle les règles du partage que vous connaissez, mais peut-être pour ceux qui nous rejoignent, ce n'est pas un débat, on ne s'interrompt pas, on s'écoute, on parle les uns après les autres, et on peut terminer son partage par Amen, et c'est très beau. Et à 22h, on exposera le Saint-Sacrement pour mettre en pratique.